Notre secours est dans le nom du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Nous retrouvons la fraîcheur de ce lieu et nous entrons dans notre dernière manche. Demain, il y aura encore une occasion de se revoir après l'Eucharistie et ce sera aussi l'occasion de poser ou reposer certaines questions qui ont surgi le premier soir et qui ont reçu un cadre, mais pas nécessairement dans ce cadre une réponse à tout. Ce sera l'occasion de peaufiner, de préciser, d'entrer plus en détail, par exemple les termes techniques comme méditation, contemplation. Il y a des choses à dire là-dessus, je ne veux pas tout dire maintenant, mais au moins réserver vos questions et vos réflexions pour demain après l'Eucharistie, ça nous donnera quand même une bonne heure encore de travail ensemble pour ceux qui le désirent. Mais j'aime de boucler quelque chose plutôt que d'introduire trop de digressions qui nous font un peu perdre le fil. Nous étions donc dans la colonne centrale, et dans cette colonne centrale, nous avions distingué trois moments. Une prière dans l'esprit, et j'ai noté l'importance pour vous autres méditants, car au point de départ, c'est tout de même votre respiration, c'est que vous la faites dans un silence pétri d'Esprit Saint, qui vous met en touche avec une aspiration que saint Paul discerne comme étant présente dans tout le créé. Et ça vous met en position de découvrir un texte que beaucoup d'autres ne comprennent pas, mais que par l'expérience du grand silence, un silence pas très coutumier dans nos traditions occidentales, mais dans ce grand silence pratiqué jour après jour, il peut vous être donné de boire cette source et de repérer cela. André Louf, dans son premier livre d'une certaine importance, « Seigneur, apprends-nous à prier », un classique des années 70-74, André Louf a un paragraphe sur la prière cosmique. Et dans cette prière cosmique, il parle de celui qui, comme un ermite, est enfoui au sein de la terre. Du côté, je dirais, du cosmos et de la création, et qui prie là-bas. Et il associe ça avec un texte fameux de Matthieu, chapitre 12, où Jésus parle de Jonas. Et il dit, de même que Jonas, pendant 3 jours et 3 nuits, a été dans le ventre de la baleine, du poisson, ainsi le Fils de l'homme dans le sein de la terre. Louf met un lien entre certains, ce n'est pas donné à tout le monde, sont invités à aller là, rejoindre le Fils de l'homme dans le sein de la terre, et là prier, et là intercéder, et là gémir, 3 jours, comme Jonas dans le ventre de la baleine. Même dans un monastère, nous avons des frères comme ça qui ne sont pas des théoriciens, qui ne sont pas des bavards, mais qui sont des hommes pétris, on a eu un breton comme ça chez nous, cet homme respirait le cosmos. Le social et le communautaire, et ça ne l'intéressait pas. Mais le cosmique, il comprenait. Les tempêtes, il comprenait. La nature, il comprenait. Il était de ce côté-là de la réalité, et là, il priait. Pauvrement, c'était un frère, et sans beaucoup de bagages, bien une très bonne technique, un dessinateur hors pair, mais j'ai dû faire l'homélie quand il est mort, parce que le père abbé était absent, etc. Et j'ai surtout souligné ça. Il était de ceux rares qui vivent à partir du cosmos, et là intercèdent, et sont irrécupérables au plan social, au plan communautaire, au plan de la conversation. Ne leur demandez pas ça, ça ne marche pas. Mais les rejoindre là où ils, la profondeur où ils sont allés. Donc ça c'était notre premier point. Le deuxième point est tout ce qui concerne la parole. Et là il y a à découvrir, et notamment le psautier est à redécouvrir dans notre génération. génération. Chaque génération est responsable de transmettre le psautier à la génération qui suit. Et je ne suis pas sûr que le XXe siècle a réussi. Que ce psautier, en fait, nous tombe des mains et on ne le prie plus vraiment. Et, pendant des siècles, c'était le repère des prêtres, des religieux et de pas mal de pieux. Mais quelque part, on a tellement déconstruit, reconstruit, déconstruit, qu'on l'a perdu. Et un de mes soucis, c'est de le transmettre, et la porte que j'envoie, ce sont les laïcs avec qui je prie 25 psaumes à la fois, comme ça. Un septième du psautier dans une soirée, une fois par mois. En les invitant à faire ça, en fait, tous les jours, et d'avoir pour chaque jour une atmosphère appropriée, parce que c'est la première chambre, la deuxième chambre d'une maison qui a sept chambres et qui monte. Et à la fin, le dimanche, c'est l'explosion, c'est le, disons, c'est l'apothéose de la prière, comme dit Chouraki à propos du dernier livre, des cinq livres du psautier. Vous retrouverez ça le jour où vous achetez ce livre. Il y a un autre livre qui est épuisé, mais que vous pouvez trouver dans les bibliothèques, c'est La prière, un livre qui a été sorti chez Anne Sigier. Peut-être qu'Albert Michel va le rééditer. Mais donc là, c'est un grand traité du psautier pour à peu près la moitié du livre. Pour moi, le psautier est la matrice de notre prière verbale. En finale, j'ai signalé qu'on voit dans la tradition, il y a plusieurs traités de la prière qui montrent qu'on va toujours de la polylogia à la prière monologistos, c'est du grec, mais assez facile. Polylogia, en latin, ça fait multiloquio. On va vers le monologistos. C'est en fait une parole de Jésus, polylogia. On trouve ça dans Matthieu, chapitre 6, verset 7. N'ajoutez pas des mots à des mots, ne faites pas du verbiage quand vous priez, comme les païens. Mais quand vous priez, dites notre Père. C'est déjà une concentration assez remarquable. Et on constate que dans la tradition monastique, on apprécie cette espèce de simplification de la prière. De beaucoup de prières, 150 psaumes, les ermites priaient 150 psaumes en une nuit. Ça fait 2 heures et demie, 3 heures. Un jour, j'étais avec un juif à côté de moi, juif religieux d'Anvers. Son père m'avait pris pour un juif. Je montais dans l'avion avec un petit baguichon. Il dit, est-ce que vous n'avez pas d'autres bagages? Je dis, non, est-ce que vous pouvez voyager avec mon fils? Je dis, oui, pourquoi pas. Alors bon, on va mettre 20 kilos sur votre... Bonne affaire. J'ai osé sourire dans ma barbe. Alors, c'était quand même une faveur d'avoir un juif religieux à côté de moi. Et je l'ai interrogé, je l'ai même cuisiné avec des questions. J'ai dit, ça vous arrive de prier les psaumes comme ça, tous les 150, l'un des... Oh, il avait 20 ans, hein, 21. Il aurait déjà dû être marié depuis 2 ans, disait-il, d'après la Mishnah. Mais il allait se marier maintenant à Jérusalem, sa femme l'attendait là-bas. Alors, il dit, combien de temps ça prend? 2 heures et 7 minutes. J'étais pas effrayé des 2 heures, mais des 7 minutes. Et c'est vrai qu'en hébreu, le psaume est beaucoup plus court, toujours. Il y a moins de paroles qu'en français, flamand, en anglais. Et puis, une fois qu'on les connaît par cœur, ça va, on se les tape, comme on dit. Et l'important, ce n'est pas les mots, c'est le mouvement. Et c'est ce que, progressivement, il faut découvrir. C'est un mouvement qui vous transforme, qui vous habite. Et bon, ça fait 2 heures et 7 minutes. Je ne suis pas encore réussi, malgré que ce voyage date déjà d'il y a au moins 10 ans. Et donc, je n'ai pas encore réussi non plus, parce que je fais des veillées avec des laïcs. Il faut toujours faire ça avec des laïcs. En fait, tenez ça une fois pour toutes. L'avenir de l'Église, ce sont les laïcs. Hein? Donc, chez nous en Flandre, il n'y a plus rien d'autre. Il n'y a plus de religieux, il n'y a plus de séminaristes. Et donc, il faut miser sur ceux qui sont réceptifs. Je n'ai pas un pessimisme, c'est une question, disons, de réalité et aussi de prise de conscience que nous sommes ensemble le peuple de Dieu. Les rôles, on va bien trouver une solution pour les rôles. Ça n'est pas un problème. Le problème, c'est d'être ensemble conscient que nous sommes responsables de la transmission, ensemble. Et donc, non, j'ai perdu le fil de la question. Oui, des veillées. Je fais donc régulièrement des veillées nocturnes, par exemple, prendre tout un évangile, tout Saint-Marc, en une nuit, à peu près 6 heures, pas plus. Même strictement, le texte, c'est 2 heures. C'est 6 fois 20 minutes. C'est 120 minutes, ça c'est tout Marc. Mais comme j'ajoute des moments de silence et des moments de réponse, on fait 6 tranches d'une heure à peu près. Et ça passe comme ça, on n'est pas fatigué à la fin. Il faut apprendre à veiller. Donc, c'est plus que c'est que veiller. Chaque fois que nous nous engageons dans quelque chose, nous en faisons tellement que nous nous épuisons. Or, veiller, c'est être comme cette petite flamme. Consommer très peu et continuer à brûler. Et après ça, après une nuit de veillée, même après une petite heure dans la nuit, on n'a pas perdu son énergie et on a reçu une autre énergie. Celle qu'on a consommée, bon, on va le sentir le lendemain, un petit peu. Mais celle qu'on a reçue, on va la sentir toute la semaine. Ça, c'est la merveille des veillées. Et donc, ce que je n'ai pas encore réussi à faire, c'est un psautier une nuit. Ça devrait être possible statistiquement, mécaniquement. J'ai essayé une fois, on s'est arrêté après 75 psaumes, il y avait une saturation. On n'arrivait plus ni à lire, ni à digérer. Bon. Un jour, peut-être que ça réussira. Il faut trouver le bon modèle, le bon module. Hein. Il faut respirer, faire des pauses. Mais donc, voilà. C'est des apprentissages. Même une des personnalités que j'ai rencontrées souvent, c'est André Louf, hein, le trappiste, et abbé du Mont des Cats. Il dit, nous devons expérimenter, trial and error, nous devons faire des erreurs, mais même nous, les trappistes, nous ne savons plus ce que c'est que la veillée nocturne, me disait-il en confidence. Alors qu'ils se lèvent à 3 heures du matin pour leur matine, est-ce que c'est des veillées ou est-ce que ce sont des offices à côté des offices? Alors qu'une veillée n'est pas un office. Une veillée, c'est un temps ouvert pour demeurer sous la parole de Dieu. Avec les musulmans, j'ai fait une veillée qui commençait à 7h30 du soir, qui terminait à 5h du matin. 300 musulmans, des enfants, des adultes, des hommes et des femmes.
Pour faire quoi avec eux?
Une veillée. Alors à un bon moment, on a dit, voilà, on va lire le Coran. Et le maître de la prière a dit, voilà, j'ai 51 fascicules en arabe, le Coran est divisé en 51 unités, donc il a distribué à ceux qui savent l'arabe, chacun un morceau. Les autres, ben, ce que vous connaissez par cœur, la shahada, c'est la première sourate, ou une autre, vous dites ça pendant cette demi-heure. Si vous ne connaissez rien par cœur, vous pouvez simplement dire, ouh, ouh. Sinon, vous écoutez simplement ceux à côté de vous qui récitent le Coran. Et aux femmes, parce que les femmes étaient derrière, je demande que pendant une demi-heure, aucun enfant ne bouge. Donc pendant une demi-heure, il y a eu comme ça une espèce de différentes voix de gens qui récitaient le Coran. Certains disaient simplement. Une partie de la nuit. On a eu une vidéo sur l'Indonésie parce que le grand maître était allé en excursion en Indonésie et la rencontre avec quand même. Bon. petit réveillon. C'était le nouvel an. Et à la fin, le maître est arrivé dans la deuxième partie de la nuit, et à la fin, tout le monde a pu aller le voir. Le cheikh Ben Tounes. Voilà, enfin, dans le groupe. Et donc, là, il y a des traditions. Et j'aimais beaucoup ce tout vieillard, le plus vieux des anciens, il y avait le conseil des anciens, et le plus vieux qui disait, l'un peut faire ceci, l'autre peut faire cela, et celui qui n'a pas ceci peut faire cela. Et sinon, ben, vous simplement, vous restez calme, et vous écoutez votre voisin. Donc tout le monde peut participer, même si vous n'êtes pas coranique dans votre étude ou lecture. Mais donc, ça se fait encore chez les orthodoxes, par exemple, en Israël. J'ai passé, j'étais tout jeune à ce moment-là, une nuit comme ça, à 5h d'après-midi, on était invité pour le repas du soir, vers 6h30, 7h, on a commencé les vêpres. Et puis il y a eu une interruption, enfin, l'office continuait jusque 2-3 heures du matin. Beaucoup de gens se retiraient pour aller dormir dans quelque part dans le Wadi Kilt, là dans les chambres. Et puis vers 2 heures du matin, il y avait l'Eucharistie, tout le monde revenait, le grand pontife habillé, chaque prêtre était presque un archiprêtre, cardinal de l'Église, etc. Mais donc, et tout sans électricité. Donc, avec des chandelles, mais si vous laissez brûler des chandelles pendant 7 heures, vous devez les renouveler continuellement. Et l'abbé du monastère ne faisait que cela, toute la nuit. Veiller aux chandelles et les renouveler. Et au milieu de la nuit, il y avait des grandes chandelles de 1 mètre au moins, qui étaient accrochées à un lustre. Alors, il allumait ces 12 grandes chandelles, et en dessous, il y avait une magnifique sphère, comme à Bethléem. Sphère miroir comme ça. Alors avec son bâton et une perche comme ça, il donnait un coup et disons ce lustre balançait comme ça pendant un quart d'heure, 20 minutes, et puis le quart d'heure suivant, jouf, il redonnait un petit coup. Et donc toutes les lumières étaient réflectées dans cette boule, plus les 12 lampes qui continuaient à girer comme ça. Dedans. Donc la fête, ils en savent quelque chose. Et après ça, ben, la tête, je ne sais plus très bien ce qu'elle pense, mais le corps a traversé tout et n'oublie pas. Le corps est sanctifié jusqu'à la moelle. Et c'est ça qui nous manque. Hein? Quand on fait un office comme ça de 25 minutes, et dès que ça devient 28 minutes, il y a certains moines qui s'énervent. Hein? Disons, en fait, on ne meurt plus au petit mois. Tandis quand un office dépasse 1h15, nous n'avons plus de contrôle sur le temps. Et à ce moment-là, il devient pur. C'est pas. Je ne m'appartiens plus. Ce n'est plus moi, c'est un autre en moi. Il y en a besoin d'une certaine quantité pour rejoindre cette qualité. Voilà. Ça, c'est donc tout ce qui est de l'ordre du verbe et la simplification qui aboutit dans un mot, monologistos, ou un nom. Le nom de Jésus, par exemple, et toute la prière de Jésus. Et vous connaissez cette prière, disons, qui va se fixer autour du 12e ou 14e siècle à Byzance, et puis va passer en Russie. Et au 19e siècle, il y a plusieurs grands traités sur la prière de Jésus, la prière du cœur, et notamment le petit livre qui est un traité didactique. C'est un récit, le récit du pèlerin russe. Beaucoup d'entre vous connaissent ça. C'est un grand modèle, on s'interroge encore aujourd'hui, quel est le père spirituel qui a, disons, rédigé ce petit témoignage remarquable d'un pauvre russe qui a traversé toute la Russie avec une anthologie qui était la Philokalie célèbre, qui avait été traduite en slavon, et une Bible. Et lentement, il se met à réciter d'abord 100 fois, 2000 fois, 3000 fois. Et finalement, son maître lui suggère de prier 12 000 fois par jour la prière de Jésus. Il faut déjà aller très vite. Normalement, une centaine, c'est un quart d'heure, et donc une heure, c'est 400. Bon. Mais 12 000, ça c'est une journée de 30 heures. Ça ne va pas tout à fait bien. Surtout que la prière peut brûler. C'est une chose à découvrir pour toute votre prière du cœur. Vous pouvez ralentir et vous pouvez accélérer. Quand vous lisez tout haut, vous ne pouvez pas accélérer, plus personne ne vous comprend. Et vous ne pouvez pas ralentir et arrêter au milieu d'un psaume, personne ne l'acceptera dans la communauté. Quand vous êtes seul et que vous tapez 12 ou 20 psaumes, brusquement il y a un verset qui s'ouvre et il faut s'arrêter. Il faut suivre la densité de ce verset. Seulement après, on passe à la suite, si c'est nécessaire. Il y a donc trois rythmes dans la prière. Très lent, normal et très vite. Quand je brûle, disons, je peux dire un Gloria en une fraction d'une seconde. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, il fait ce matin, vous en direz, tout le plus haut. Ça part tout seul. Quand je connais par cœur, si je ne connais pas par cœur, ça ne marche pas. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est très haut Jésus-Christ. Donc, du gloire à gloire, j'arrive tout de suite. Ça, c'est parce que je connais par cœur. Et quand je brûle, ça va comme ça. Et je ne suis pas le seul, je vous dis ce que les manuels nous disent. Tandis que si je suis distrait, ou trop fatigué, ou incapable de me concentrer, je dois ralentir. Et je peux ouvrir chaque expression. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Et paix sur la terre, au centre de l'homme. Nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions. Te rendons grâce pour ton immense gloire. Ma petite maman était professeure de diction et disait immense gloire quand ça arrivait. Elle aimait beaucoup cette prière, elle aimait beaucoup le mot gloire. C'était un de ses mots à elle. Or, le Gloria, il y a gloire au début, il y a gloire au milieu, il y a gloire à la fin. Donc, découvrez ça, hein. C'est des choses à découvrir. Hein. On ne peut pas vous enseigner ça, c'est votre cœur qui doit vous éduquer. Mais vous devez écouter votre cœur. Et si votre cœur est pris, ben, on ralentit. Si votre cœur, disons, brûle, eh bien on accède. Et il n'y a pas de façon, hein. C'est ça la chose à découvrir. Et donc la prière de Jésus est très proche de votre Maranatha, et est très proche du « Je vous salue Marie ». Nous ne savons pas ça en Occident, mais le « Je vous salue Marie » est une très vieille prière du IVe siècle. On a des exemples en copte du IIIe siècle. C'est une prière biblique. « Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. » Qu'est-ce qu'il dit ça dans la Bible? Non. « Vous êtes bénie entre toutes les femmes. » Et le fruit de tes entrailles est béni. Qu'est-ce qui dit ça, Élisabeth? Et puis, Jésus arrive normalement à la fin. Et c'est le premier mouvement de la prière, c'est une prière de Jésus. On salue Marie pour le fruit de ses entrailles, Jésus. Ce qui vient après, c'est du 14e ou du 15e siècle. C'est les Dominicains qui nous ont servi ça. Ça vaut ce que ça vaut. Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant il y a notre mort, c'est très bien. Mais la salutation est en fait une salutation qui est tournée vers Jésus. Et donc, ce qu'on oublie souvent, c'est que notre unité mariale n'est pas tellement mariale comme telle, que surtout, elle est une prière de Jésus. Et le mot Jésus est ce que l'ange a dit à Joseph qu'il devait prononcer, donner le nom à l'enfant et on l'appellera Jésus. Donc, le Maranatha, le « Je vous salue Marie », la prière des pauvres publicains sont toutes des prières de Jésus qui vont dans cette même direction de simplification et de concentration. Alors j'arrive au dernier stade, c'est la prière vers le Père. C'est la dimension, je dirais, démesurée de la prière. C'est déjà Saint Bernard qui dit « modus orationis ». Sine modo. Le mode, la façon, la forme de la prière est sans façon, est sans forme. Également, la limite de la prière est sans limite. La définition de la prière est indéfinie. Il y a au fond du mouvement de la prière une force qui fait sauter les canevas, qui fait sauter les limites, qui fait sauter les cadres. Et on a donc plusieurs attestations, et c'est d'abord il faut le savoir, et puis il faut se laisser surprendre. Il faut d'abord le savoir. Il faut savoir donc que dans toute la tradition, on connaît ça. Le moment où les paroles cèdent et on ne prie plus avec des mots, tellement on est pris. On appelle ça la prière de feu. C'est ce que Jean Cassien a dit. À un bon moment, tout brûle au point où on ne sait plus si on est en train de louer, de rendre grâce, de supplier ou d'intercéder. Les quatre formes classiques de la prière passent l'une dans l'autre. Et ça brûle tellement qu'après coup, je ne sais même plus m'en souvenir. Je sais que j'ai brûlé, mais je ne sais plus rappeler ce qui s'est passé. C'est comme si le feu brûlait la cire où je voulais mémoriser quelque chose. Et donc la cire est toute liquide, et quand je regarde après ma tablette de cire, il n'y a plus rien inscrit. Et si je pouvais conserver quelque chose, c'est que je suis plus attaché à moi qu'à la prière de Dieu. Si Dieu m'attire et me consume à ce point, je me perds. Et si je me perds, je ne sais plus me retrouver. Et si je reviens à moi, après coup, je ne sais plus ce qui s'est passé tel quel. Donc, c'est ce qu'on appelle la prière de feu. Cassien nous dit, ça vient de l'action de grâce, qui est le sommet de la prière dans toutes les traditions. L'action de grâce, dire merci à Dieu, peut se faire pour le passé, j'ai eu des grâces, pour le présent, je suis très satisfait, pour l'avenir, comment ça pour l'avenir? Bien oui, dans les Écritures, on nous dit que déjà les choses sont prêtes pour nous. Du côté de Dieu, tout est prêt. Alors, je peux maintenant remercier pour tout ce qui est prêt et que je rencontrerai à la fin. Et si je me concentre sur ce que je ne sais pas remplir, ce que l'œil n'a pas vu, ce que le cœur n'a jamais pensé, ce que l'oreille n'a jamais entendu, mais ce que le Seigneur a déjà préparé pour ceux qui le craignent, ça se trouve dans saint Paul, 1 Corinthiens 2, eh bien, je peux me concentrer là-dessus. C'est de l'ordre du rien, c'est de l'ordre de l'indicible, c'est de l'ordre que je ne sais pas définir, mais je sais une chose, c'est déjà prêt, et c'est une fête. Donc je remercie maintenant pour la fête de demain. Alors, nous dit Cassien, avec le témoignage de Lisa, qui l'interroge, le cœur brûle. Et on entre dans la prière de feu. Un autre maître remarquable de cela, c'est Isaac le Syrien. Et lui ne parle pas de feu, mais d'émerveillement. Il dit, brusquement, il y a une espèce de stupeur émerveillée. Je suis paralysé pour encore dire des mots. Et donc j'arrête de prier. C'est la fin de la prière, c'est la mort de la prière, mais c'est l'entrée dans quelque chose de tout autre, qui est l'émerveillement. Donc, plusieurs traditions nous attestent cette espèce d'au-delà du verbe, vers lequel nous courons, consciemment, inconsciemment. Et donc je vous le signale comme un auto-indicateur. J'ai pas besoin moi-même d'aller jusque-là. Marc Scheler, on trouvait que Marc Scheler était un très beau parleur, mais que sa vie privée n'était quand même pas tout à fait à la hauteur de sa belle éthique. En éthique, je suis comme un auto-indicateur. J'indique une direction, mais je ne vais pas moi-même dans la direction que j'indique. Donc, je ne fais pas ma fonction. Donc, je vous indique une espèce d'au-delà. Restez ouverts à cela. Ne vous imaginez rien, parce qu'il n'y a rien à s'imaginer. Mais soyez sûr que ça peut vous arriver. C'est une des belles choses de votre vie spirituelle, c'est qu'il faut commencer avec une discipline. Il faut commencer avec des efforts. Mais de telle façon que tôt ou tard, je cède. Et au lieu d'en faire, je me laisse attirer. C'est ça le plus beau. Le plus beau, quand je m'approche du sublime et du plus beau, c'est le plus beau brusquement qui m'attire. Et ce n'est plus moi qui essaie de le prendre. Mais c'est ce changement de perspective vers lequel nous devons rester ouverts. Donc, soyez disciplinés, soyez persévérants, mais ne soyez pas crispés. pouvez être tout le temps au service du petit moi, dans tous les efforts spirituels. Alors, ça va causer de l'ennui, ça va causer de découragement, ça va causer des frustrations. Tandis que si je suis, dès le départ, ouvert à ce au-delà de l'effort, qui vient justement de l'au-delà, à ce moment-là, je fais la discipline de la façon juste, et même mes efforts, je vais les reconnaître comme portés par la grâce. Même mes efforts, je vais reconnaître qu'ils sont portés par la grâce. Et c'est fini alors d'opposer l'effort à la grâce. Ça, c'est la théorie. Tandis que dans la pratique, je découvre que même mes efforts, en fait, me mettent à flot, sont portés par la grâce. Je ne sais pas si vous connaissez la pompe à eau du village, du Moyen-Âge. Donc, je fais une petite régression culturelle, ça va? Et ça marche comment, la pompe? C'est qu'au début, vous pompez et il n'y a rien qui sort. Qu'est-ce que vous pompez? Ben, tout l'air. Et l'air peut être à 12 mètres, l'eau peut être à 12 mètres. Donc vous devez pomper 5 fois, 7 fois, 10 fois, et puis brusquement l'eau arrive. Et à ce moment-là, il faut suivre l'eau. Il ne faut pas y aller à tout casser, vous allez faire sauter la pompe. Et c'est l'eau elle-même qui a une portée, qui a une force, et qui monte. Bien, c'est ainsi la prière. Au début, ça ne me dit rien. Les psaumes, ça ne me dit rien. Je ne suis pas fait pour ça. Ce n'est pas mon genre, ce n'est pas mon créneau, ce n'est pas ma tasse de thé. Vous entendez ça très souvent. Faites-en 3, et puis 3, et puis 3. Et au 7e, 8e degré, l'eau va arriver. Et vous allez pouvoir, comme un poisson dans l'eau, nager, respirer et aller danser. Voilà donc ce dernier stade de la prière. Émerveillement, prière de feu, au-delà des mots. La forme de la prière est sans forme. C'est un mot très cher à Rusbrook, huiselos, également à Eckhart et les autres. Et huiselos, ça veut dire sans forme, c'est cinémode, c'est la traduction du latin de Saint Bernard. Et ça remonte en fait au grec, c'est oros, la définition de la prière est a ora, oriste. Sans définition, au-delà de tout ce qu'on peut définir, démarquer. Il faut introduire ça dans votre ordinateur, hein, c'est un élément de votre programme. Et une fois que vous êtes ouvert à ça, disons, vous allez découvrir de plus en plus de choses. Et je termine par une maxime que j'ai reçue dans mon noviciat. Le noviciat, on lit de tout, on apprend de tout. Et il y avait à la bibliothèque du noviciat un pamphlet d'un moine français. Je suis en Belgique et je suis en Flandre. Bon, les Français, c'est toujours un peu... Parfois, ils sont un peu cathares, hein, dans la bonne région, pour le dire. Un peu janséniste ou un peu cathares. Gaulois, l'église gauloise, comme ça, fière, bon. Et les moines français, en particulier. Ils ne se disent pas bénédictins, ils se disent moines français. Pas OSB, mais moins de français. C'est un flamand qui vous parle. Je ne veux blesser personne, mais je blesse un peu tout le monde, et il faut m'excuser. Alors, qu'est-ce que ce pamphlet disait? C'était remarquable. Et il en prenait aux conversions modernes. Les conversions modernes exigeaient que tous les matins et tous les soirs, pendant une demi-heure, il fallait faire oraison. C'est une expression technique. J'avais des confrères qui disaient « tu vas faire oraison ». Qu'est-ce que ça veut dire? Ah ça, on ne sait pas. Pas d'explication, il n'y avait plus de tradition. Mais faire oraison. Et ce moine s'en prenait à cette méthode qui vient évidemment des jésuites, hein, comme bénédictin. Hein. À l'époque, on aimait bien ces querelles d'école. Et pourquoi? Parce que, dit-il, un moine, il prie tout le temps. Et s'il ne prie qu'à certains moments, ça veut dire qu'il ne prie pas aux autres. Et pour moi, ça a fait un déclic énorme. Dans le sens où Benoît, Si tu ne découvres pas comment prier tout le temps, est-ce que tu sais ce que c'est que la prière? Et depuis ce jour-là, je suis en quête de retrouver cette prière continue. Et ce que je dois vous avouer, c'est que ça a changé. Que à telle phase, j'avais tel angle pour être tout le temps en prière, et à un moment, il y a une saturation, ça ne marchait plus. J'ai dû casser le moule et retrouver un autre niveau de profondeur pour être à flot et continuer à être en prière continue. Et parfois c'était une petite formule qui m'aidait, comme une prière de Jésus. Parfois c'était le silence. Avec le premier apophthegme, le premier koan de la tradition zen, mou, qui veut dire rien, nada, qui casse avec tout ce qu'on peut. Ça m'aidait à rester branché, en respiration, en prière continuelle. Et donc, je vous invite à mettre ça derrière vos deux demi-heures. J'ai lu que von Durkheim, un jour, on lui demandait, enfin, comment est-ce que... Oui, Durkheim, von Durkheim, parlait avec un moine bouddhiste qui lui demandait comment il méditait. Alors, dit-il, je médite le matin une demi-heure, je médite le soir une demi-heure. Réponse du bouddhiste, il faut méditer tout le temps. Qu'est-ce que c'est que ça, une demi-heure le matin, une demi-heure le soir? Et von Durkheim dit, si j'avais dit que je méditais toute la journée, il m'aurait dit, qu'est-ce que c'est que ça, méditer toute la journée? Il faut méditer une demi-heure le matin, une demi-heure le soir. Vous entendez la force et la liberté de Durkheim qui ne se laisse pas rabattre comme ça, même par un maître zen. Et en même temps, donc, vous entendez mon moine bénédictin français qui la pointe, juste. Et vous entendez aussi la pertinence du jésuite. Une demi-heure le matin, une demi-heure le soir. Donc, en fait, les offices, par exemple, pour nous, c'est des moments où la prière est complète, lucide, communautaire, consciente. Et après, c'est comme un fleuve qui passe souterrain, mais qui continue à couler. Et qui est sous-jacent à toutes mes activités. Et puis dès qu'il y a une petite heure, on arrête tout, on fait ressurgir en haut, en plein air, le fleuve. Et puis il replonge pour quelques heures, et puis vers la fin de la journée, on a à nouveau une belle orchestration de la prière. Et donc votre méditation, ça doit être de cet ordre-là aussi, où le courant continuel surgit deux fois par jour, avec lucidité, précédé par un moment de Lectio Divina et terminée par une prière d'action de grâce en finale de journée. Donc, mais retenez que la grande importance d'une vie de prière, c'est qu'elle doit être constante. Et si elle n'est pas constante, est-ce que nous savons ce que c'est que prier? Moi, c'est une espèce de couteau, une espèce de... Si vous mettez la main à la charrue et vous regardez en arrière, ce n'est pas bon pour le royaume. Mais c'est disons, une pratique, c'est une pensée comme celle que je viens de dire, doit être pour vous comme pour tracer un sillon, et alors la terre se revivifie chaque fois. Et la croûte s'ouvre. Voilà. Ça sont mes deux colonnes. Il reste la troisième, qui est le fruit de la première et de la seconde, et qui sont les bonnes œuvres, qui sont la charité, qui sont la solidarité, qui sont ce que saint Benoît appelle « humanitas », l'humanité de l'homme, c'est-à-dire la bonté, c'est-à-dire l'hospitalité, qui est une catégorie fondamentale de la rencontre avec autrui, et qui prend toutes sortes de formes aujourd'hui. Notre modèle, celui que saint Benoît met lui-même constamment en exergue, c'est Matthieu 25. Tout ce que vous avez fait à l'un de ces petits, c'est à moi que vous l'avez fait. Et ça sont des prisonniers, ça sont des étrangers, ce sont des malades, ce sont des petits, des mendiants, etc. C'est une vieille tradition, hein, donc quand Lévinas discutait avec des chrétiens un jour, on lui dit, mais enfin, est-ce que vous n'avez vraiment rien à apprendre de cet évangile, etc. Et quand je lis Matthieu 25, j'entends Isaïe 58, je n'ai pas besoin de Matthieu 25. Isaïe 58, ce sont les mêmes œuvres qui sont épelées l'une après l'autre, et que nous lisons au début du carême, en même temps que Matthieu 25, tout à fait au début du carême. Donc, c'est dire que c'est une vieille tradition. Alors, une belle chose, j'ai une fois dû parler du jeûne, des trois pratiques que Jésus montre, donc les aumônes, les jeûnes et la prière. Ce sont chapitre 6 de Saint Matthieu, hein, les aumônes, la prière et le jeûne. Ce sont les trois relations, ce sont les trois colonnes. Les aumônes, c'est pour autrui. Le jeûne, c'est pour soi et sa relation avec le monde. Et la prière, c'est la relation avec Dieu. Vous avez les trois relations et les trois pratiques, les trois colonnes. Alors, j'ai fait une étude pour les aumônes et j'ai découvert que les aumônes, c'est aussi très important chez les musulmans. Et j'ai découvert que les juifs, ils savent aussi très très bien ce que c'est que la solidarité et les œuvres de miséricorde. Et quand j'ai étudié pour une autre conférence, Matthieu 25, j'ai été voir dans la tradition rabbinique et j'étais époustouflé. Quand quelqu'un meurt, il y a une douzaine d'œuvres de miséricorde que le milieu juif propose. Douzaines. Et je les vérifie dans ma propre famille. Des choses que nous ne faisons jamais. Quand quelqu'un meurt, et ça se fait aujourd'hui chez les juifs, la maman qui reste seule, veuve, ne doit pas cuisiner. Pour tous ses repas, il y a quelqu'un d'autre qui lui apporte à manger de la commune. Et c'est réglé, d'avance. Moi, j'avais une cousine qui avait épousé un juif qui n'allait jamais à la synagogue. Elle faisait partie du bon diamantaire d'Anvers, pas n'importe qui. Bon. Il meurt, et bien elle m'a dit, j'ai jamais dû cuisiner entre la mort et l'enterrement. Et donc j'ai pu faire mon deuil, j'étais soutenu, il y avait une conversation, j'étais pas seul. Et le jour de l'enterrement, qu'est-ce que je vois? Tout un bus qui arrive, depuis Anvers jusqu'à Bruxelles, avec tous des jeunes. Tous des jeunes de l'âge du fils étaient là dans cet autobus pour entourer le fils qui allait enterrer son père. Je ne vois pas, dans un milieu chrétien, tout un bus de jeunes quitter l'école et venir assister quelqu'un qui a la mort de son père. On peut non seulement payer, si c'est un pauvre, les funérailles, on peut tenir un discours, s'il n'y a personne pour le tenir, près de la tombe, on peut payer des études des orphelins, de manière à ce qu'ils puissent devenir indépendants dans leur vie. Tout ça est prescrit au 2e, 3e siècle de notre ère, déjà, dans la tradition juive. Alors, chez les musulmans, j'ai découvert aussi tout ce qui concerne la stratégie, la technique de la zakat, de l'aumône, et notamment durant le ramadan. Je vais dire, mais enfin, ça n'est quand même pas la charité chrétienne, etc. Bien, en Flandre, je ne parle pas de la France, je ne parle pas de l'Italie, mais en Flandre, quand quelqu'un va mendier dans les magasins pour avoir des fruits avariés, du pain déjà desséché, etc., pour les pauvres. Si c'est chez un musulman, on le donne tout de suite. On ne discute pas. Si c'est chez un chrétien, vous allez à l'OCDE, c'est-à-dire au service des pauvres. Nous, on n'a rien à voir avec ça. Vous croyez que nous, on avait le monopole de la charité, mais on découvre que c'est les musulmans, quand c'est pour un pauvre. De leur surplus quand ils donnent ici. La conclusion que j'ai découverte en faisant cette étude parallèle, c'est qu'à un moment, tous les trois disaient, en matière de charité, nous sommes les meilleurs. Tous les trois. Et tous les trois ont raison. On ferait bien d'écouter les uns les autres parce qu'on peut gentiment se compléter. des choses que les autres n'ont pas, et les autres ont des choses que nous n'avons pas. Et donc, en matière de charité, il faut être inventif, il faut réinventer constamment. Le père Pire, qui est un des prix Nobel de la Belgique, on n'a pas trop, pour la générosité, un dominicain, était convaincu de ça. La charité, c'est très bien, mais il faut la réinventer chaque génération. Et nous avons des exemples parmi nous, hein, que ce soit Mère Teresa, que ce soit Jean Vanier, que ce soit Raoul Folgro, maintenant un grand jésuite vient de mourir, le père Seyrac en Inde, hein, qui a fait énormément et pour l'Inde et pour le Cambodge et les orphelins. La sœur de Sion, sœur Emmanuelle, hein, qui n'est pas française, enfin, honorée en France plus qu'ailleurs, qui est belge d'origine, comme vous savez, ou vous ne savez pas. Hein, petite taquine. Mais Roger Schütz, Madeleine Delbrel, disons, on a, et en Japon, j'ai eu des bouddhistes qui ont dit, nous n'arriverons jamais à la cheville de la charité comme vous. Nous avons vraiment une tradition, nous ne devons pas rougir ni nous gêner. Alors on a un sens de cette solidarité. Et donc, toutes les formes maintenant d'hospitalité, d'accueil des réfugiés, et ça demande un tact énorme, ça demande aussi une stratégie. On ne peut pas laisser les portes comme ça ouvertes, on crée d'autres problèmes insurmontables. Il y a à intégrer, à travailler. Et donc, et à être très inventif et de l'être le plus possible ensemble. Donc, d'être des partenaires avec les autres en cette matière. Alors, j'aimerais terminer avec une petite réflexion qui résume l'ensemble. Et tourner en rond dans le désert. C'est de ne plus y croire. Et
ça a risqué d'être comme ça, puisque 40 ans, on a tourné en rond, et toute une génération a écopé avant qu'on arrive en tête. Ici, avec la sagesse, avec l'espérance, il faut la sagesse. Bien sûr qu'on a les deux autres aussi, on a Aaron et la nuée, on a Moïse et la manne, mais on a besoin peut-être plus encore de cette sagesse complémentaire. Donc, ici des sages, ici des prophètes, ici des prêtres. C'est un petit modèle esquissé rapidement, trop rapidement, mais qui vous donne de quoi réfléchir comme dans un miroir pour découvrir qu'est-ce que nous avons besoin surtout aujourd'hui. Et les réponses peuvent varier. Même dans une seule communauté, on peut avoir des gens qui estiment que la première chose qu'il faut, c'est des gens qui nous redonnent une identité, parce que nous sommes en fait en exil. Nous sommes des étrangers dans notre propre culture. Notre culture ne nous transmet plus notre identité, et donc nous devons nous organiser, nous profiler, nous donner, disons, de quoi des marques identitaires. Et on entend cela assez souvent aujourd'hui. D'autres disent, non, non, nous sommes sortis de l'exil, nous sommes en exode et nous allons conquérir une terre nouvelle et construire un temple nouveau. Nous devons pas manquer d'espérance dans nos ailes de sagesse. Et d'autres disent, on est beaucoup trop installés, tout l'Occident est en train de craquer, et ce qui manque, c'est cette ouverture aux pauvres, au tiers-monde, à la relation à autrui. Et la globalisation est finalement au service d'une minorité, et on a besoin de prophètes pour dénoncer ça, pour mettre le doigt sur la plaie et réveiller tout le monde. Voilà. Je n'ai pas la réponse en poche, je crois que la réponse est différente en Belgique, en France ou en Italie. Il y a quand même des réponses communes pour toute l'Europe aujourd'hui, quand on voit ce qui se passe. Il y a probablement des réponses différentes en Espagne et en Allemagne, pour ne donner que deux pays qui sont en train de voguer très différemment aujourd'hui dans cette même Europe. Est-ce que nous allons réussir la solidarité? Est-ce que nous allons réussir aussi le challenge, donc le défi qui nous vient de tout le monde du Sud? Voilà les questions qui se posent, et c'est pour vous dire la fertilité de ce modèle, les trois colonnes, et son applicabilité dans des contextes nouveaux. Et on n'en sort pas si facilement, au contraire, on trouve constamment de quoi le réappliquer. Et je termine par un dernier regard sur l'icône que j'ai placée ici devant, et qui est l'icône de la Trinité, que vous connaissez par cœur, et qui est aussi la fête de demain, de ce soir, puisque le dimanche commence ce soir. Et ici également, on peut retrouver les trois milieux, les trois colonnes, les trois aspirations. Il y a l'Esprit, il y a le Fils et il y a le Père. On va retrouver aussi notre axe de la prière, nous allons retrouver la fraction du pain, nous allons retrouver la doctrine des apôtres, la koinonia, ou la mise en commun, le grand cercle autour de la table est extrêmement harmonieux, mais pas du tout asphyxiant, parce qu'il y a une large coupe à l'intérieur de ces trois qui est tout à fait ouverte. La personne qui nous accueille, c'est la personne de l'esprit, à main gauche, à main droite pour vous, à main gauche pour moi. C'est l'esprit qui va, dans la théologie orientale, nous introduire dans l'intimité de Dieu. C'est l'esprit qui, en Dieu, est le plus près de nous. Et c'est lui qui va nous rendre conformes au Fils, qui est au milieu, qui est l'icône par excellence, notre vis-à-vis quand on regarde Dieu, l'icône, la visibilité de l'invisible, c'est le Fils. Et on voit clairement les deux natures dans ces deux couleurs tranchées, le rouge et le bleu. Le bleu ici, c'est pas toujours comme ça, mais ici, le bleu est ce que les trois personnes ont en commun, c'est-à-dire la divinité. Et le rouge est sa condition humaine. Et ces deux doigts assez séparés qui bénissent la coupe du centre, disons, indiquent aussi sa personne. Tandis que tout à fait à votre gauche, le mouvement se noue dans le sein du Père. Au-delà de son genou et de sa manche, on trouve les deux mains réunies, et
c'est dans les mains du Père que se noue tout le monde. Et c'est de là que repartent une main bénie, la main droite, et l'autre tient le sceptre tout droit. Un sceptre qui va communiquer son mouvement au Fils, qui est un peu plus penché, et tout à fait penché dans la main de l'Esprit, où on voit le sceptre entièrement. Il y a donc une expression, expressivité entière, avec le sceptre de l'Esprit-Saint. Alors ce mouvement est un mouvement interminable. On monte vers le Père, et du Père, on est renvoyé vers l'Esprit. Si vous regardez de plus près, le regard du Père est un regard puissant qui envoie l'Esprit. Et l'Esprit nous forme dans la liberté du Fils. Le Fils est penché vers le sein du Père et se donne dans un abandon. Et le Père, qui est la source de toute sainteté, le Père envoie l'Esprit. Donc dans ce mouvement éternel, on peut reconnaître la prière de Jésus dont on a parlé tout à l'heure. Seigneur Jésus. Saint Paul nous dit, nul ne peut dire Jésus est Seigneur si ce n'est dans l'Esprit-Saint. L'Esprit-Saint nous tourne vers la Seigneurie de Jésus. Seigneur Jésus. Christ au milieu, Fils de Dieu, la relation au Père. Prends pitié de nous, c'est ce qu'on supplie à Dieu, au Père, et c'est sa miséricorde qui descend sur nous avec l'envoi de l'Esprit-Saint. Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu. Prends pitié. Et en général, on prie cette prière sur l'expiration. On inspire en silence et on expire. Et c'est ce qui sort de l'homme qui a besoin de la sainteté de la prière pour être, disons, expectant. Vous avez ici toute la vision de la Trinité et la doctrine des apôtres. Vous avez ici aussi le geste eucharistique par excellence. La table, et au milieu de la table, il y a l'agneau. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Et donc, dans la coupe, il y avait un agneau qui était recouvert parce qu'à un certain moment, on ne pouvait plus représenter le Christ autrement que par une face. Et donc, archéologiquement, on est obligé d'imaginer ce qu'il y avait en dessous. Et donc, les exégètes nous disent qu'en dessous, il y avait un agneau. Et donc, le Père envoie le Fils et propose de devenir agneau au milieu de l'histoire. L'histoire, c'est la table. Et la table est en même temps une table eucharistique, et les trois personnes bénissent ce qu'il y a au milieu de la table, parce que dans la théologie orientale, la consécration se fait par le Père, par le Fils et par l'Esprit-Saint. Par la volonté du Père, par le consentement du Fils et par la sanctification de l'Esprit-Saint, le pain et le vin sont changés. Voilà une perspective. Derrière l'Esprit, il y a la montagne. Derrière le Fils, il y a l'arbre. Derrière le Père, il y a la maison et la vie. Ce sont les trois stades, la vie nomade en exode, la vie sédentaire et la vie urbaine. Les trois stades du peuple de Dieu, les trois cultures par excellence. Voilà en deux mots un petit commentaire de cette icône qui nous ouvre au mystère de la fête de cette semaine. Vous devez savoir que c'est l'icône de la Pentecôte au XVe siècle quand Roubliov a peint ça en 1410. Il n'y en avait pas d'autre. C'est la Pentecôte johannique hein, dans Saint Jean au chapitre 14. Si quelqu'un m'aime, mon Père l'aimera, nous viendrons chez lui et nous ferons chez lui notre demeure. C'est évidemment la scène du chêne de Mambré où Abraham et Sarah accueillent, mais c'est aussi la Trinité qui vient à notre demeure, selon la parole de Jésus en Jean 14, 26. Donc voilà, en deux mots, un petit éclairage d'une très grande icône, on appelle souvent l'icône des icônes, mais aussi un résumé. Donc vous retrouvez votre prière, et le Maranatha, vous pouvez le dire en face de cette icône. Elle est inépuisable. Et tous les passages de l'Écriture, tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Vous pouvez le retrouver dans ce verset. Voilà comment je voulais clôturer. Quant à moi, demain on a encore l'occasion de se poser des questions. Non, derrière le Fils, il y a l'arbre. L'arbre, c'est le chêne de Mambré. Et derrière le Père, il y a la maison. La maison, c'est la culture, la sédentarisation, il y a l'occupation de la ville et la construction des temps. Les trois phases de la culture. Le père, la maison, la ville et le temps. Ça, c'est le père. Et le premier, c'est l'esprit et la montagne. C'est de quoi avoir le souffle coupé pour terminer. Je devais respecter les horaires. On m'avait demandé s'il y avait un temps pour parler encore un peu, donc personne à personne. Pour le moment, je suis libre jusqu'au vêpre. Donc, si quelqu'un veut poser des questions, demain, ce sont, après la messe, la possibilité en public de poser encore des questions sur l'une ou l'autre question qui n'est pas claire. Mais, retenez, le livre sort le 25 août et donc sera dans les magasins le 4 septembre. À la procure, par exemple.
Donc, il s'appellera comment?
Les éditeurs, les trois colonnes du monde, et les éditeurs m'ont demandé et supplié de faire de la réclame. Et donc, vous avez évidemment une épreuve énorme, c'est que le libraire ici n'était pas au courant de notre venue. Et donc, il n'y a aucun livre de Benoît Standard dans la librairie. Alors, allez dans toutes les librairies maintenant, frappez à les portes, et s'ils n'ont rien, obligez-les à acheter la sagesse comme la devise, etc. Il y a un beau petit livre qui vous effrayera, hein, que je considère un des plus beaux, c'est La crainte de Dieu. La crainte de Dieu. Personne n'aime la crainte, et moi je l'ose décrire là-dessus, hein, en disant que c'est indispensable de rejoindre cette qualité de la crainte qui est la porte de la sagesse, hein, qui est le rapport juste à Dieu. C'est pas la peur de Dieu, hein, c'est pas la trouille de Dieu, mais c'est et la belle chose, c'est que je suis en correspondance avec une jeune femme de 17 ans que j'ai connue à 14 ans 12-14 ans, et qui était ouverte comme ça. Et j'ai entretenu comme ça une correspondance avec elle, et je passe à travers 25 siècles de spiritualité. Et c'est des causeries, c'est pas des traités. Mais jamais je ne donne une définition de la crainte de Dieu. Je laisse les auteurs en parler, Cassien, Saint Benoît, le Deutéronome, Ben Sira, les Juifs, les musulmans, les bouddhistes, il y a un paragraphe sur le bouddhisme, Julienne de Norwich, une des plus grandes, et les plus justes, elle est aussi juste que les juifs sur la crainte de Dieu. Elle parle des deux frères, la crainte et l'amour, parce qu'en anglais c'est masculin, elle en fait deux frères ou deux sœurs, et qui marchent la main dans la main. Voilà. C'est un tout petit livre, il existe encore. Tandis que la prière n'existe plus, sauf dans les bibliothèques, mais pas dans les libraires. Mais on va peut-être rééditer. Merci pour votre attention.